Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le 16 novembre 2006, la Fondation Saint-Gerre-Polignac organisait un colloque consacré aux femmes illustres du grand siècle. La princesse Palatine, Anne d'Autriche, Madame de Sévigné, Madeleine de Scudéry. La communication de la romancière Françoise Chandernagor, intitulée « Pour en finir avec une légende, Madame de Maintenon et la révocation de Lady de Nantes », retraçait la figure de Madame de Maintenon du XVIIe au XXIe siècle. Françoise Chandernagor a choisi ce jour-là d'expliciter la légende noire de Madame de Maintenon, accusée à tort d'être l'instigatrice de la révocation de Lady de Nantes. Plus connue sous le nom de Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon fut secrètement l'épouse de Louis XIV et la romancière Françoise Chandernagor lui avait déjà consacré un roman, son premier roman, publié en 1985, L'Allée du Roi. Écoutons Françoise Chandernagor et retrouvons sa passion pour les sources.
La figure de Madame de Maintenon a subi du XVIIe au XXIe siècle des variations très amples dans l'opinion publique et peut-être plus amples que celles de la plupart des grands hommes. On peut dire que son image a varié selon les époques de la figure de la sainte femme à celle de la sorcière. Pourquoi ? Parce que cette image, d'abord, est indissolublement liée à celle d'un monarque qui incarne un régime particulier, l'absolutisme, qui a ses détracteurs, par ailleurs. Ensuite, et surtout, parce qu'ayant voulu elle-même effacer ses traces et brouiller les pistes de son vivant, elle porte une part de responsabilité dans l'image floue, l'image trouble qu'elle nous a léguée. Elle n'a pas voulu laisser de mémoire. En effet, elle a dit à sa secrétaire, qui nous l'a rapporté, « Il faudrait tout dire ». Et je ne peux pas tout dire, on s'en doute. Elle a détruit, peu avant sa mort, toute sa correspondance avec le roi. Aux autres, elle n'écrivait, disait-elle, que pour le pur nécessaire, sans se livrer. Elle a interdit à ses proches de prendre des notes, de noter ses propos. Cachée dans son petit appartement de Versailles, elle a, du fait de la non-déclaration du mariage, passé sa vie en marge de la cour, presque toujours invisible. Enfin, elle a survécu si longtemps à son entourage familier que seules ont pu témoigner après sa mort des personnes qui ne l'avaient connue que très peu ou très tard. Sa nièce à la mode de Bretagne, Madame de Quélus, qui l'avait quand même, c'est encore elle qui l'a le mieux connue, mais des gens qui l'avaient connue très peu, très tard, ben Saint-Simon. Saint-Simon a 50 ans de moins qu'elle et il ne l'a approchée tout compte fait parce que j'ai fait le compte en reprenant toutes les mémoires et en essayant de voir quand il dit l'avoir vraiment rencontrée. Il ne l'a rencontrée que deux fois, ça ne l'a pas empêché d'en écrire des pages, mais il ne l'a rencontrée que deux fois, dont une fois dans une foule. Ça ne fait pas beaucoup quand même pour parler de quelqu'un. Je resterai une énigme pour le monde à jamais, confia-t-elle à sa secrétaire dans ses derniers jours. Eh bien, c'est gagné. Dès lors, rien d'étonnant à ce que soit développée à son propos successivement une légende dorée au XVIIIe siècle, pieusement entretenue par les dames de Saint-Cyr, puis une légende noire qui s'enfle à partir du XIXe siècle. C'est de cette légende noire que je vais vous parler aujourd'hui, une légende noire qui fait d'elle une vieille fée malveillante, une carabosse bigote, bornée, responsable de tous les malheurs du règne, une légende qui s'est progressivement cristallisée autour de la persécution des protestants et plus précisément de la part que, supposée renégate elle-même, elle aurait prise à la révocation de Lady de Nantes. Je vais donc vous parler de la légende noire, d'abord de son contenu. Comment se présente-t-elle ? Eh bien, l'idée, c'est que c'est le complot d'une convertie, la révocation de Lady de Nantes. Une renégate tombée dans la bigoterie qui aurait marchandé avec les jésuites son mariage en échange de la révocation. J'obtiens du roi qu'il révoque Lady de Nantes, puisque ça vous plaît à vous jésuites. En échange, vous le pressez pour qu'il m'accorde le mariage, donnant, donnant. Ça, c'est la thèse de Michelet, qu'il exprime, comme il sait toujours le faire, avec beaucoup de panache, sinon d'exactitude historique. Je vous lis cette scène qui est plus longue et qui est admirablement écrite, mais enfin, prenons-en un extrait. « L'altération de la santé du roi la servit, elle devint garde malade. Les jésuites eurent ce qu'ils voulurent, ce fut un pacte entre elle et eux. Elle se soumit, baisa la griffe, conseilla la proscription, et ils se compromirent, consentirent le mariage. » Le roi Louis XIV boitant et Madame Veuve Scarron dans son deuil et ses coiffes noires s'unirent à ce moment qui pour tant de familles fut celui de la séparation éternelle. Déjà, si le vent eût porté cette nuit, on eût entendu des sanglots. Plus qu'à tirer l'échelle et applaudir. Bon. Lavis derrière. Lavis a un petit peu plus de recul quand même, il est plus partagé dans son Louis XIV. Parce qu'il voit bien que les persécutions contre les protestants sont très antérieures à l'entrée de Madame de Maintenon dans la vie de Louis XIV. Il écrit « C'est assurément une erreur que d'attribuer à Madame de Maintenon la révocation de l'édit. Elle a, elle ôté, le cours des choses qui venaient de loin aurait suivi son chemin. » Mais tout de même, il croit qu'elle est renégate, il croit qu'elle a changé de religion, ça le trouble. Il est très troublé, il pense aussi, bien à tort, qu'elle penchait pour le clan Louvois dans les affrontements qu'il y avait à l'époque entre le clan Colbert et le clan Louvois, à l'époque de la Révocation, puisqu'il y a des cabales politiques. Il pense donc qu'elle penche pour le parti des durs. Il est troublé, surtout, par une lettre du 25 octobre 1685 qu'a cité Michelet. Il ne va pas plus loin, il ne va pas chercher si elle est exacte ou pas exacte, mais il dit « je vois qu'elle mettait de pair les progrès de la dévotion du roi et ceux de la résolution d'en finir avec l'hérésie ». Il a enlevé quand même le rôle des jésuites, la négociation du mariage, tout ça, il ne l'a pas retenu, mais au total, après avoir hésité, il conclut qu'elle a eu un rôle déterminant. L'opinion commune contemporaine, alors là, c'est acquis, il n'y a plus besoin d'en parler. Elle a fait révoquer l'édit de Nantes, je vous donne simplement un extrait du dictionnaire des personnages historiques du livre de poche. Elle abjura la religion calviniste, le fait paraît acquis, et elle poussa à la conversion des protestants. On trouve la même chose dans le grand Robert des noms propres, qui par ailleurs l'a fait naître en Guyane. On ne peut pas être toujours exact. Quelles sont les sources de cette légende ? Deux courants parallèles. Un premier courant que j'appellerais la source mondaine, ou la source de la cour, un deuxième courant, la source protestante. La source mondaine, c'est l'idée que donc la révocation aurait été le prix à payer pour le mariage. D'où vient cette source mondaine ? De la Palatine, de Madame. Le bruit est lancé en 1719 seulement, soit 35 ans après les faits. La Palatine, dans trois lettres, pour la première fois, trois lettres de 1719, postérieures donc, non seulement à la mort de Louis XIV, mais à la mort de Madame de Maintenon, et postérieure de 35 ans à la révocation, écrit, je cite, « Si au moins Madame de Maintenon était morte il y a 30 ans, tous ces pauvres réformés seraient encore en France et leur temple de Charenton n'eût pas été rasé. La vieille sorcière a combiné tout cela avec le père Lachaise. À eux deux, ils ont causé tout le mal. » Autre lettre, la vieille et les jésuites ont persuadé le roi que s'il persécutait les réformés, il effacerait ainsi devant Dieu et devant le monde le scandale qui résultait du double adultère dans lequel il vivait avec Madame de Montespan. C'est ainsi qu'il a été trompé. Trois lettres donc, seulement sur plusieurs milliers de lettres conservées et trois lettres très tardives. On pourrait dire, oui, elles sont tardives parce qu'avant, elles craignaient les indiscrétions de la poste du roi. Alors là, rassurez-vous, pas du tout, puisque comme on le sait, dans les lettres dont elles savaient qu'elles passaient par le cabinet noir et qu'elles pouvaient arriver entre les mains de sa belle-sœur, elles ne se privent pas, bien au contraire, puisque Madame de Maintenon est allègrement traitée là-dedans de pantecrotte, crotte de souris, putain, vieille guenille, sorcière. Alors vraiment, si elle y avait pensé avant qu'elle pouvait avoir provoqué la révocation de l'édit de Nantes pour obtenir le mariage, elle se serait pas retenue de le dire. Ces lettres-là, d'une certaine manière, cette idée-là, va être mise en musique par Saint-Simon aux environs de 1750, puisque Saint-Simon écrit essentiellement entre 1730 et 1750, et que c'est surtout dans la fin de ce qu'il écrit qu'il met en cause le rôle de Madame de Maintenon dans la révocation. Donc, il écrit entre 1739 et 1750. Il consacre à ce moment-là, vers 1750, peu avant de terminer ses mémoires, des dizaines de pages au rôle de Madame de Maintenon, à son influence politique. Et donc, il écrit 65 ans après la révocation, et il consacre quelques lignes bien senties à la révocation. Il écrit « Elle n'était pas née pour ne pas saisir avec ardeur une occasion si naturelle de plaire, d'admirer, de s'affermir de plus en plus dans la dévotion. Qui, d'ailleurs, eût su un mot de ce qui se délibérait entre le confesseur, le ministre alors communique, il parle de Louvois, et l'épouse actuelle et chérie. Qui l'eût su, dit-il. Saint-Simon, apparemment, je ne sais pas où il était, mais enfin, lui, il l'a su. La révocation de l'édit de Nantes, conclut-il, sans le moindre prétexte et sans aucun besoin, fut le fruit de ce complot affreux. Je rappelle que Saint-Simon avait 6 ans en 1685 et que, bien sûr, il ne vivait pas à la cour, que par la suite, comme je vous l'ai dit et tout compte fait, il n'a rencontré Madame de Maintenon que deux fois. Qui peut l'informer si bien sur une réunion dont il dit lui-même qu'ils étaient trois ? Eh bien, je ne vois qu'une personne qui ait pu lui parler de tout ça, son ami, le futur régent, qui lui-même pouvait tenir des informations ou des supputations de tout ce qu'on veut, par sa mère, la Palatine, dont la haine pour sa belle-sœur est par ailleurs bien connue. Donc nous avons une source, la Palatine, reprise par Saint-Simon, et puis orchestrée par Michelet en 1860. Pourquoi ? Parce que pour Michelet, quand il écrit son histoire du XVIIe siècle, Saint-Simon et la Palatine, c'est presque des scoops. Ce sont deux sources historiques nouvelles, jusqu'alors peu connues. La première parution intégrale des mémoires de Saint-Simon, c'est, si je ne me trompe pas, 1829, et c'est encore plus tard pour les additions au journal de Dangeau. La Palatine, la première parution, plus ou moins intégrale, expurgée tout ce qu'on veut des lettres, est de 1853. Donc, pour lui qui travaille dans ces années-là, pof, c'est formidable, deux sources nouvelles. Et elles paraissent, ce qu'il ne peut pas remarquer, dans l'ordre inverse de leur rédaction. Saint-Simon paraît avant la Palatine. Et donc, au lieu de raisonner, est-ce que c'est pas la Palatine qui a inspiré Saint-Simon, Michelet croit trouver dans la Palatine confirmation des accusations de Saint-Simon. Sans voir que c'est au contraire donc la Palatine qui est à l'origine de Saint-Simon. Sur la révocation, il ne voit pas que ces deux sources ne s'étaillent pas l'une l'autre, elles font doublon. Lui, il les pense bien maçonner et il n'a pas le temps, il n'a, en fait, disons-le clairement pour Michelet, jamais le temps d'aller aux sources ni de les critiquer, parce que quand on écrit toute l'histoire de France en quelques années, c'est du boulot. Alors, par ailleurs, ça rencontre ses propres obsessions, les jésuites. Les jésuites, c'est quand même une de ses obsessions, ce qu'il appelait les hommes noirs et souterrains, et l'influence de l'Église sur les femmes, et à travers les femmes, sur le destin politique d'une nation, bah, c'est un de ses dadas à Michelet, on le sait. Donc tout ça, c'est merveilleux, le scoop, l'obsession, ça rencontre ses idées, hop, il met ça en musique, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Il y a une deuxième source sur la participation éventuelle à la révocation. C'est la source protestante, et c'est l'idée qu'on se heurterait là au fanatisme du néo-converti. Là, c'est pas la négociation du mariage, c'est, voilà, tous les néo-convertis sont comme ça, et donc ils veulent convertir leurs anciens co-religionnaires, c'est normal, et c'est comme ça. Alors, il y a des libelles hollandais, entre 1688 et 1700, il y en a pas mal, mais il y en a pas beaucoup sur la révocation. En fait, il y a beaucoup de choses contre Madame de Maintenon, parce que c'est contre Louis XIV, mais c'est plutôt sur sa jeunesse prétendument scandaleuse. Si on prend les titres des pamphlets, c'est le divorce royal, la cassette ouverte ou les amours, Scarron apparu à Madame de Maintenon, les intrigues galantes, etc. etc. Et on y dit même que Saint-Cyr, on n'a pas encore inventé le parc aux cerfs, mais on explique que Saint-Cyr, c'est de la jeunesse à la disposition du roi, etc. Et je n'ai trouvé que deux ou trois pamphlets qui lui prêtent un rôle, indirect d'ailleurs, dans la révocation, mais parfois au milieu de très nombreux autres personnages. Par exemple, il y a un pamphlet qui s'appelle « Les héros de la Ligue » de 1691, où on voit 24 personnages suivre une procession conduite par Louis XIV. Il y a Madame de Maintenon, avec cette légende, qui n'est pas extraordinairement politique, « Je dois sans contredit être jointe à la Ligue, j'ai bâti des couvents et Saint-Cyr en fait foi, de veuve de Scarron, je suis femme d'un roi, et si j'ai réussi, c'est par ma seule intrigue. » Oui, on ne peut pas dire que ce soit clairement une accusation à propos de l'édit de Nantes. Il y a des protestants d'ailleurs mieux informés que les libellistes, et je pense notamment à Ézéchiel Spanheim, qui en 1681 fera sa relation de la cour de France. Il est ambassadeur en France de l'électeur de Brandebourg. Il se pose la question d'une influence éventuelle de la seconde épouse sur les décisions du roi. Et il y répond prudemment, mais plutôt par la négative. Après avoir fait son portrait physique et morale, il dit « Je dois ajouter quelques réflexions sur la part que certains lui attribuent dans la malheureuse persécution suscitée aux gens de la religion en France. Toute sa famille était élevée dans cette même religion, et sa parenté n'a pas été à l'abri de ces mêmes persécutions. On n'en saurait rien dire de plus, sinon qu'elle a pu quelque temps se flatter que le roi viendrait à bout de ses desseins, sans y employer des moyens aussi extraordinaires et aussi violents que ceux dont il s'est servi par la suite. » Qu'elle n'a plus eu alors le pouvoir de les détourner du fait de son entière résignation aux volontés du roi. Tout cela est relativement équilibré et prudent. Ça va cesser de l'être dans le courant protestant avec les publications de La Baumelle entre 1752 et 1758. La Baumelle est un protestant cévenol, assez fasciné par Agrippa d'Aubigné, qui était très, très populaire chez les Camisards et qui est le grand-père de Madame de Maintenon. Et par ailleurs, il est assez jaloux du succès de Voltaire avec son siècle de Louis XIV qui vient de paraître en 1751. Et en 1752, La Baumelle fait paraître 298 lettres de Madame de Maintenon en un volume. Ces lettres ont été en partie rachetées à Louis Racine, fils de Jean Racine, qui avait l'intention de faire une publication de la correspondance de Madame de Maintenon. Dès 1756, ces 298 lettres sont devenues 1535. Il est rare qu'un biographe ait ce bonheur. C'est vraiment la multiplication des pains, on peut même dire des petits pains, parce que ça se vend très bien. Et donc, dès 1756, La Baumelle publie 8 volumes de lettres. Il publie en même temps une biographie qui dédouane prudemment Madame de Maintenon sur la révocation, mais au moment même où il la dédouane dans sa biographie en disant « Imputer à quelqu'un un crime sans preuve est une calomnie, lui imputer sans preuve un crime opposé à son caractère serait une absurdité », bon, je sais pas, d'accord. Mais curieusement, dans la correspondance qu'il joint, les 8 volumes, il y a plusieurs lettres très politiques qui semblent complètement rapporter la preuve manquante, complètement prouver sa participation à la réflexion préalable à la révocation. Et il s'agit essentiellement de lettres datées de 1684 et 1685. Je vous lis quelques extraits de ces lettres publiées par la Baumel, dont il n'indique pas où sont les originaux, bien sûr, mais ce n'était pas la tradition à l'époque. Ça nous le cherchait. Je veux contribuer, moi aussi, à la conversion de nos frères séparés. Une autre lettre. Le roi a dessein de travailler à la conversion entière des hérétiques. Il a souvent des conférences là-dessus où l'on veut me persuader que je ne serai pas trop. Son entreprise le couvrira de gloire, il aura fait rentrer tous ses sujets dans le sein de l'Église et détruit l'hérésie que ses prédécesseurs n'ont pu vaincre, etc. Bien sûr, Voltaire, qui a vérifié ses sources, lui, qui a fait un travail assez sérieux pour le siècle de Louis XIV, crie aussitôt au faussaire. Il ne voit pas du tout d'où ça sort et il s'indigne. Bien sûr aussi, Louis Racine, qui était le précédent propriétaire d'une partie des lettres, s'étonne dans les marges du premier volume publié, et nous avons encore ses annotations au crayon dans ces marges, partout il écrit « Cette lettre m'est inconnue, très fausse, tronquée. » Puis il connaissait les lettres. Mais ces annotations très précises de Louis Racine et très essentielles vont être égarées pendant plus d'un siècle. Quant aux protestations de Voltaire, on croit à une simple jalousie d'auteur. En 1911, quand arrive Lavis, Lavis va se rattacher non pas à la tradition mondaine et Michelet, mais à celle des protestants davantage. Dans son Louis XIV, il écarte la source palatine, pas directement, mais l'idée du mariage donnant-donnant ne lui paraît pas vraisemblable. D'abord parce qu'il n'est pas très sûr de la date du mariage et qu'il se demande, en quoi il a bien raison, si le mariage n'est pas antérieur à la révocation. Oui, il l'est 2 ans. Et nous avons maintenant, moi-même j'ai assez étudié la question, Jean-Christian Petit-Fils aussi, et puis j'ai publié des choses là-dessus, et François Bluch arrive à la même conclusion. Ils se sont mariés 2 mois après la mort de la reine. Par conséquent, le truc donnant-donnant, le mariage contre la révocation, ça ne tient pas. Elle était déjà mariée depuis 2 ans au moment de la révocation. Et puis, par ailleurs, Lavis, qui bénéficie des travaux de la Société d'histoire du protestantisme français, voit bien que les poussées de persécution contre les protestants sont très antérieures à l'entrée de Madame de Maintenon dans la vie de Louis XIV. Seulement, il se heurte à cette fameuse une lettre du 25 octobre 1685, publiée par la Baumel, recitée par Michelet, et qu'il recite à son tour sans chercher à se poser de questions. Je cite « Le roi est fort content ». D'avoir mis la dernière main au grand ouvrage de la réunion des hérétiques à l'église. Je suis bien aise que ceux de Paris aient entendu raison. Claude, leur pasteur, était un séditieux qui les confirmait dans leur erreur. Depuis qu'ils ne l'ont plus, ils sont plus dociles. Je crois bien, comme vous, que toutes ces conversions ne sont pas également sincères, mais Dieu se sert de toute voie pour ramener à lui les hérétiques. J'indique d'ailleurs au passage que, par exemple, Jeanne Garrison, dans son ouvrage de 1685 sur la révocation de l'édit de Nantes, s'appuie encore sur ce texte. Ce texte cité par Lavis, qui le reprend donc dans le Michelet, qui l'a repris dans la Baumel, et que pas un de ces historiens de métier n'a fait l'effort de vraiment vérifier. Je vais faire maintenant cette critique des sources, et vous prouver que tout ça, c'est des fantasmes et une fabrication. Les fantasmes de la Palatine, d'abord. Il est intéressant, puisqu'elle porte ses accusations en 1719, de regarder ce qu'au cours de cette année-là, et cette seule année, prenons cette année 1719, elle porte comme autres accusations contre Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, qui à l'époque a 84 ans, est enfermée dans un cire depuis 4 ans, est malade, ne voit personne et va mourir en avril 1719. Et puis, rappelons aussi, pour resituer pour les lettres de cette année, qu'en décembre 1718, le duc et la duchesse du Maine vont être embastillés à cause de la conspiration qu'ils ont faite contre le régent, la conspiration de Cellamare. Donc, c'est ça l'arrière-plan. En fait, pour moi, mon analyse, ça va être que la conspiration de Cellamare et la mort de Madame de Maintenon vont réveiller quelque chose chez la Palatine ou lui faire passer un cap. En tout cas, je commence quelques-unes des accusations portées dans cette fin d'année 1718 ou de cette année 1719. Madame de Maintenon a provoqué la famine de 1709. Non, ce n'est pas le froid, ce n'est pas le froid. En novembre 1718, la Palatine le dit, c'est qu'elle avait accaparé les blés. Madame de Maintenon est une incendiaire qui vient de faire brûler à distance le château de Lunéville parce qu'il appartient à la fille de la Palatine. C'est une accusation de janvier 1719. Madame de Maintenon est une conspiratrice. Elle est l'âme du complot de Cellamare. janvier 1719, je cite là un petit extrait de lettre pour que vous voyez le ton, la vieille est un démon incarné. Les jésuites pourraient bien être mêlés à tout ça, parce qu'il y a toujours l'obsession des jésuites, mais on n'a rien trouvé contre eux. Bon. Madame de Maintenon, surtout, est un serial killer. Alors ça, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Elle a appris, nous dit la Palatine, toujours alors, en fin novembre 1718, elle a appris chez la Brinvilliers, exécutée pourtant en 1676, l'art d'empoisonner. Et l'ayant appris, ben, elle s'en est servie, c'est bien normal, elle avait fait un investissement, elle a fait empoisonner Louvois. Puis, deuxième lettre pour préciser, elle a fait également empoisonner le médecin de Louvois qui en savait trop. Elle a fait également empoisonner la dauphine, c'est une lettre du 8 avril 1719, en soudoyant son accoucheur, puis en venant à son chevet avec des gants empoisonnés. Voyez un peu. Elle a assassiné la reine, ça c'est peut-être plus logique, hein, avec la complicité de Fagon. C'est une lettre de 1719 encore. Elle a été complice de 3 empoisonnements voulus par Madame de Montespan. C'est elle, Madame de Maintenon, qui s'est occupée de la Fontange et du fils de la Fontange et d'une femme de chambre qui en savait trop. Il y a toujours des gens qui en savent trop autour. Bon. Elle a tenté, et va encore tenter, ça c'est le pire, d'empoisonner le régent. Il y a 3 lettres successives en septembre 1718 sur ce thème. Je cite un peu. « Je sais qu'elle sait fort bien faire usage du poison. Les périls que court l'existence de mon fils me font passer des nuits sans sommeil. Je ne connais que trop la malice de cette sorcière. » Cette sorcière qui est en train de mourir en même temps. Hein. Et bien sûr, alors là, hein, c'est last but not least, elle a fait empoisonner le roi avec la complicité de Fagon. C'est une lettre du 20 octobre 1719. Pourquoi ça? Quel était l'intérêt de Madame de Maintenon à faire empoisonner le roi? C'est pas précisé. Bon, nous sommes à l'évidence en présence, je l'appellerais un délire sénile de type paranoïaque, qui a été donc manifestement réveillé par des événements très récents. Mais soyons logiques. Est-ce qu'on peut retenir une accusation qui est au milieu de ça? Dans la même lettre où elle dit il y a la révocation, elle a contribué à la révocation, elle dit elle a assassiné la reine, etc. Bon. Est-ce qu'on peut prendre les uns sans prendre les autres? Est-ce que, tout de même, compte tenu de l'état psychologique que ça révèle, il ne faut pas y aller prudemment? Pour moi, c'est tout ou rien, et en vérité, ici, ce n'est rien. Le premier courant d'accusation prend sa source dans le fantasme d'une vieille femme diminuée. C'est pourtant à cette source que Michelet, puis l'école publique derrière Michelet, se sont abreuvés. D'autre part, fabrication de la Baumelle. C'est postérieurement à l'œuvre de Michelet que des historiens ont commencé à se pencher sur la correspondance publiée par la Baumelle, à la comparer aux originaux existants et à faire la critique interne et externe des lettres dont les originaux manquaient. Le premier à le faire, c'est Lavallée en 1865, puis il y aura Geffroy en 1869 avec un livre qui s'appelle « De l'authenticité des lettres de Madame de Maintenon ». Oserais-je m'ajouter à la liste, parce que j'ai fait un gros travail qui ne se voit pas dans la Lettre du Roi, je vous dirai pourquoi, en ce qui concerne notamment un bloc particulier de correspondance, 58 lettres, supposées adressées à Madame de Saint-Géran, et où l'on trouve pratiquement toutes les lettres relatives à la révocation. Examinons d'abord l'ensemble. Un premier examen très rapide permet un petit peu d'avoir des doutes sur la Baumelle, et même plus qu'un petit peu. Par exemple, il existe 2500 lettres authentiques de Madame de Maintenon aux dames et aux demoiselles de Saint-Cyr. La Baumelle lui publie 80 lettres. 62 d'entre elles ne figurent nulle part. Elles ne sont pas dans les 2500 lettres. Quant aux 18 autres, ce sont des morceaux de lettres authentiques, mais enrichis, coupés, déformés, adaptés. On les retrouve, mais c'est une autre chose. Et les commentaires de Louis Racine, enfin retrouvés, et qui portent donc sur les lettres qui formaient les 9 dixièmes du premier volume de la Baumelle, vont dans le même sens. Et ils sont très précis. Ils montrent quels sont les passages supprimés ou interpolés, puisqu'ils connaissaient très bien ces lettres, qu'ils comptaient les éditer. Ils montrent surtout le découpage quasi systématique de chaque lettre authentique, quand il y en a une, en 3 ou 4 morceaux, enrichis de phrases inventées, de manière à faire de la bonde, comme on dit chez moi à la campagne, à faire 3 ou 4 lettres complètes à partir d'un même original. L'examen externe rapide des lettres, dont il n'existe aucun, pour celles dont il n'existe pas d'original, laisse lui aussi très perplexe. Les lieux sont faux, et nous connaissons très bien les lieux où était la cour à chaque moment. Alors ça, c'est vraiment facile. Or, quand on sait que la cour était à Versailles, et que bizarrement, Madame de Maintenon date sa lettre de Fontainebleau et explique « Ah, Fontainebleau, là, aujourd'hui, le roi chasse, etc. » Et puis, on voit la date. Ce jour-là, il chasse, mais non. On voit qu'il a pris médecine, etc. Tout se contrôle. Donc, toutes les dates sont fausses, les lieux sont faux. Plus grave, il y a des destinataires inexistants. Beaucoup de lettres sont adressées, par exemple, à une Madame de Fontenay. Bon, c'est un nom banal. On n'a trouvé qu'une seule Madame de Fontenay à l'époque, mais elle est morte avant la révocation. Et elle n'a jamais connu Madame de Maintenon, pour autant qu'on sache. L'examen externe, ça c'était l'examen externe, un examen interne rapide, c'est aussi assez probant. Le style est très différent, beaucoup plus épigrammatique. parce que la Baumelle est obligée de faire des lettres pleines d'esprit. Avec un name-dropping systématique, je prendrai une lettre du 26 juillet 1676, par exemple, donnée par la Baumelle, en 12 lignes. Madame de Maintenon cite Bossuet, Lauzun, Boileau, le père de la chaise, Racine, Madame de Sévigné, etc. C'est une lettre faite pour plus tard. C'est une lettre où il n'y a que des gens célèbres, que la postérité a triée, alors que dans les lettres de Madame de Maintenon, les lettres originales, elle parle plus souvent de sa famille ou de ses domestiques que des grands hommes du siècle. Bref, nous nous trouvons devant une correspondance certes passionnante, parce qu'elle est d'abord un produit vendeur. Je vous propose d'examiner le corpus Saint-Géran au sein de toute cette correspondance, où se trouvent presque toutes les lettres relatives à la persécution des protestants, dont la fameuse lettre de 1685 qui avait convaincu Lavis et certains commentateurs après lui. Un examen critique externe rapide déjà, le vocabulaire. Dans ses lettres authentiques, Madame de Maintenon n'a jamais appelé les protestants autrement que les huguenots. Dans les lettres à Madame de Saint-Géran, ils sont uniquement appelés les hérétiques. Déjà, on a un petit doute. Ensuite, il y a des erreurs de date monumentales dans ces lettres à Madame de Saint-Géran. Du genre, aujourd'hui, je suis désolée, ma secrétaire, Mademoiselle Daumale, je ne l'ai pas, elle me manque, je suis obligée de vous écrire moi-même. Ben oui, Mademoiselle Daumale lui manque sûrement parce qu'à la date de cette lettre, elle a 3 ans. Alors, bon. Et puis, aussi, maintenant que depuis la fin du XIXe siècle ont été publiées des mémoires qui avaient été longtemps détenues à Saint-Cyr de certains proches ou contemporains de Madame de Maintenon, je pense à Madame de Quélus, sa nièce, à Manceau, son intendant, à Mademoiselle Daumale, sa secrétaire, à Hébert, le curé de Versailles, à partir du moment où tous ces mémoires sont publiées, on s'aperçoit que la Baumelle en a eu connaissance puisqu'ils étaient entreposés à Saint-Cyr et qu'il en a pris des morceaux pour les mettre sous la plume de Madame de Maintenon. Alors évidemment, ce que dit le curé Hébert, ça lui épargnait à lui d'écrire quelque chose, c'était bon, ça, c'était du tout fait. Comme c'était inconnu et que ça n'allait pas l'être avant un siècle, il prenait un morceau du curé Hébert et il le mettait sous la plume de Madame de Maintenon. C'était toujours ça de fait. Alors, quant à la critique interne, elle est facile à faire parce que pour que... D'abord, on voit que Madame de Saint-Géran, à qui Madame de Maintenon écrit constamment, est supposée vivre en province, d'après les lettres, puisqu'on la met au courant de ce qui se passe à la cour. L'ennui, c'est qu'elle vit à la cour, Madame de Saint-Géran. Elle existe, mais elle vit à la cour. Elle est supposée sûrement avoir la tête très politique, puisqu'on ne lui parle que de politique. L'ennui, c'est que Madame de Saint-Géran était connue de tout le monde comme une personne légère et frivole. Elle est supposée être une amie intime de Madame de Maintenon, parce que Madame de Maintenon, qui était si prudente, n'aurait pas confié tout ça à quelqu'un dont elle se serait méfiée. Or, Madame de Saint-Géran n'est d'abord qu'une connaissance très éloignée de Madame de Maintenon, puis carrément une amie d'ennemis, puisqu'elle va devenir l'amie de la duchesse de Bourbon, fille de Madame de Montespan, à l'égard de laquelle Madame de Maintenon a les plus grandes réserves. Enfin, si on s'en reporte aux mémoires du temps, Sourges, d'Angeau, etc., des contemporains, on ne la voit rencontrer Madame de Maintenon qu'une fois, dans un carrosse où elle monte, où il y a 7 autres dames, pour aller uniquement de Versailles à Trianon en 1688, 3 ans après la révocation. Bon, mais ça, c'est les banalités de... où on monte dans le carrosse. Dans toute la correspondance authentique dont nous possédons les originaux, le nom de Madame de Saint-Géran ne figure qu'une seule fois, en 1696, et d'une manière qui indique le contraire même de l'intimité. Je vous cite la phrase. « Madame de Saint-Géran, à qui je n'avais pas parlé depuis bien des années, m'a demandé audience. Je l'ai envoyée à Madame la maréchale de Noailles pour juger s'il faut la mener à Marly. Elle ne l'a même pas reçue. » Bon, l'affaire me semble entendue, les accusations de la Palatine sont tardives et extravagantes, la correspondance politique avec Madame de Saint-Géran est l'œuvre, très maladroite, quand on se penche un peu dessus de près, d'un faussaire. L'acte d'accusation s'effondre. Fin des sanglots dans la nuit de Michelet. Accessoirement, fin du roi qui boite parce que en 1683, il a 45 ans et puis la goutte et la gangrène, alors c'est bien plus tard. Fin également de la veuve en coiffe noire. Elle était veuve depuis 24 ans et il y avait longtemps qu'elle avait abandonné les coiffes noires. Voyons maintenant s'il y avait néanmoins un procès à instruire. Une fois défait l'acte d'accusation, y a-t-il quelque chose à dire? Revenons-en aux faits. Madame de Maintenon peut-elle avoir été une renégate persécutrice, pourchassant ses anciens coreligionnaires avec l'ardeur des nouveaux convertis? Il faut examiner la situation personnelle de Françoise d'Aubigné au regard du protestantisme et la politique de Madame de Maintenon à l'égard de la révocation. Sa situation personnelle au regard du protestantisme, elle est simple, c'est une catholique ordinaire, et il faut le redire parce que c'est généralement oublié, ce n'est pas du tout une renégate, elle est la fille d'une mère catholique, d'un père converti au catholicisme depuis plus de 10 ans quand elle naît, elle a été, comme ses deux frères, baptisée catholique dès sa naissance. Donc là, et contrairement à une légende tenace encore, elle a toujours assisté à la messe, elle n'a jamais refusé d'y assister, la seule chose qu'elle a refusée à un moment donné, elle l'a raconté elle-même, c'est lorsque sa marraine l'a fait prendre à sa tante qu'elle aimait, pour la mettre dans un couvent. sous prétexte qu'avec la tante, elle ne reçoit pas une assez bonne éducation catholique, madame, la jeune Françoise d'Aubigné, va refuser pendant 6 mois de faire sa communion. Et puis, elle se laissera convaincre par son institutrice qu'elle aime beaucoup, la fameuse sœur Céleste, et voilà, et ça n'ira pas plus loin. Et elle ne l'a jamais présentée elle-même comme une affaire de foi, mais comme une affaire de... une petite adolescente de 12-13 ans qui montre qu'elle n'est pas contente qu'on l'ait séparée d'autorité de sa tante pour la mettre entre les pattes d'une marraine qu'elle ne connaît pas et qui l'abandonne aussitôt dans un couvent. Mais elle n'a donc jamais abjuré quoi que ce soit. Même si, dans le fond, c'est vrai, sa pratique catholique apparaît légèrement teintée de protestantisme, ça c'est certainement les années passées auprès de sa tante, on voit qu'elle est hostile à la mariolatrie. Il y a des réflexions assez courantes là-dessus sur le culte à Marie qui la choque, aux reliques, aux processions avec chasse, aux indulgences dont elle dit parfois tout cela n'édifierait pas bien les huguenots. Et même aux ornements d'église, puisqu'elle demande, mais elle n'a pas été exaucée, qu'il n'y ait dans l'église de Saint-Cyr que des fleurs des champs disposées sans apprêt. C'est une lettre authentique, ça, pour le coup. En 1685, ça n'est même pas une bigote. Elle est dans une dévotion de bienséance, très commode pour tout le monde, surtout pour elle, bien sûr. Elle est surtout occupée, d'ailleurs, en 1685, pas des protestants, mais par la création de Saint-Cyr, qui est sa grande œuvre du moment. Un Saint-Cyr laïque, dans sa première version, c'est plus tard qu'elle sera contrainte de transformer en institution religieuse. Et par la représentation d'Esther, où d'ailleurs elle ne va pas avoir l'appui de l'Église, mais au contraire être très critiquée par les autorités ecclésiastiques pour avoir mis des petites filles sur le théâtre avec de magnifiques parures et avoir incité certaines à tomber dans les bras des jeunes pages qui venaient les voir. Dans les années qui suivent, d'ailleurs, la révocation ou la représentation d'Esther, elle ne tombe pas dans les bras de Torquemada, madame de Maintenon, elle tombe dans les bras de Fénelon, c'est pas le même genre. Elle va vers le quiétisme, qu'on peut pas expliquer là parce que ce serait trop long, mais pour donner une idée de ce mysticisme effusif du quiétisme, très doux, sentimental, je pourrais dire que ça ressemble un peu au charismatique d'aujourd'hui. En tout cas, on est à 100 lieues d'une église rigoriste, etc. Alors, ce qu'il y a en revanche, c'est qu'elle est attachée à une famille protestante, madame de Maintenon, attachée dans tous les sens du terme. Elle les aime, et par ailleurs, ils la ligotent. Le grand-père, déjà, le grand-père célèbre, ça c'est vrai, Agrippa d'Aubigné, on le lui colle souvent dans les pattes. Alors c'est un grand-père vis-à-vis duquel elle n'a pas une grande gêne, elle a lu ses œuvres, on s'en aperçoit par ses lettres. Bon, elle dit qu'elle y a trouvé un peu de prévention, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais elle a fait restaurer son tombeau, ce qui veut dire qu'elle ne le nie pas. Il la gêne parce que, contre elle, les catholiques comme les protestants rappelle souvent le grand-père. Je voudrais citer par exemple une préface, c'est une préface, donc c'est imprimé, de Charleval, un ouvrage d'un auteur protestant, et qui commence, l'ouvrage est dédié à madame de Maintenon, et ça commence par « L'auteur a certes le malheur d'être de la religion de monsieur votre grand-père », c'est en 1683, « mais il n'est pas de ces hérétiques obstinés qui fassent désespérer de leur conversion », persiflage embarrassant. Elle a un cousinage mixte. Il ne faut pas croire qu'à part elle, tous les descendants d'Agrippa d'Aubigné étaient protestants. Non, beaucoup étaient catholiques ou avaient fait des mariages mixtes, comme son cousin Philippe de Villette, qui était marié à une catholique. Dans les trois dont elle est le plus proche, les Villette, justement, l'un protestant est marié à une catholique, une autre est restée protestante mariée à un protestant, la troisième est devenue catholique et s'est mariée à un catholique, madame de Fontmort, c'est les trois... L'enfant qu'elle connaissait le mieux, elle avait passé 8 ans de son enfance avec eux. Et pour madame de Fontmort, d'ailleurs, son frère lui disait, elle avait changé assez souvent de religion. Et son frère disait, Dieu qui sait tout ne sait pas lui-même de quelle religion est ma sœur. Bon. On peut être petit enfant d'Agrippa et néanmoins, c'est... Bon. Alors, cette famille, cela dit, on en entend beaucoup parler, même à la cour, parce qu'elle les pousse, parce qu'elle n'a pas d'héritier, parce qu'ils sont sa lignée, parce qu'ils sont sa seule espérance. Et elle les pousse seulement, à partir de 1678, elle les met en garde dans ses lettres. Attention, le roi n'aime pas les huguenots. À partir de 1681, elle n'arrive plus à les faire avancer dans le service. La plupart, ils sont officiers, comme toute la noblesse pauvre. Les ministres commencent à se dérober. Elle conseille à ses cousins de se convertir. Surtout quand, croit-elle, tout le monde finit par le faire. Parce que ça va être l'époque des dragonnades, etc. Qu'ils se convertissent pour eux, mais aussi pour elle. À force, elle devient suspecte et ridicule. Et c'est notamment le sens d'une lettre à son frère en mai 1681. « Je crois qu'il ne demeurera d'huguenots en Poitou que nos parents. Il paraît que tout le peuple se convertit. Bon. » Mais là encore, ça n'est pas une opinion, c'est un constat. Et elle dit « Voilà, ben, on est ridicule. Bon. » Qu'elle ait poussé le roi à adopter une décision qui, compte tenu de ses attaches familiales, la met elle-même en porte-à-faux, fragilise sa position, puisque certains de ses cousins seront même emprisonnés, croit-on que c'était vraiment son intérêt? Quant à la politique qu'elle a suivie par rapport à la révocation, une fois vu quelles sont ses positions par rapport au catholicisme, elle n'en est pas l'inspiratrice pour la bonne raison que les persécutions commencent bien avant la révocation. Les historiens modernes du protestantisme distinguent 3 grandes vagues de répression et de vexations de tous ordres, hein, qui vont de l'interdiction des prêches en plein air jusqu'à l'interdiction d'exercer certaines professions, depuis celle de sage-femme jusqu'à celle de loueur de chevaux. Et ça nous rappelle la législation contre les juifs de Vichy, c'est étonnamment similaire. Et puis il y a le bannissement des apostats, la suppression des collèges, l'injonction aux juges d'aller solliciter les protestants sur leur lit de mort, etc. Toutes ces mesures-là viennent par vagues et bien avant la révocation. La première vague est antérieure même au règne personnel de Louis XIV. Elle est de 1657. À ce moment-là, on a des statistiques. Il y a 3 fois plus de mesures répressives en un an que dans les 25 ans qui avaient précédé. C'est pas Louis XIV pourtant qui est au pouvoir. Et dans cette même époque, là, Françoise d'Aubigné est la toute jeune épouse de Scarron. Deuxième vague, 1661-1667, avec un point culminant en 63-64. En 63, il y a 7 fois plus de mesures anti-protestantes qu'en 1659. Ça donne des idées, quoi. À cette époque, la jeune Madame Scarron vient de perdre son mari, elle devient la mini-non de l'enclos, elle ne connaît ni le roi ni la cour. Troisième vague, elle commence en 1677 et va jusqu'en 1686 avec un point culminant en 1681. C'est-à-dire l'époque des dragonnades de Louvois. Il y a 30 fois plus de mesures prises en 1681 qu'en 1675. On voit bien comment ça va par pousser. Au moment du mariage de Madame de Maintenon, en 1683, il y a beau temps, en vérité, que la religion prétendue réformée est à l'agonie, qu'il ne reste à peu près rien de l'édit de Nantes. Le protestantisme a été étouffé à petites goulées. La révocation de 1685 est forte sur le plan symbolique, mais sur le plan pratique, elle n'est même plus nécessaire. L'élimination du protestantisme a été voulue par Mazarin et Louis XIV. La révocation, au lendemain, au surlendemain du siège de Vienne par les Turcs et au plus fort de la querelle gallicane avec la papauté, m'apparaît à moi, et à d'autres historiens d'ailleurs aussi, largement faite pour des raisons de politique extérieure à ce moment-là. Le reste de la politique faite avant est en fait pour des raisons de politique intérieure. Madame de Maintenon n'a aucune part là-dedans. Du reste, jusqu'au début des années 80, ses lettres authentiques ne contiennent à peu près rien sur le protestantisme. La question n'est abordée qu'incidemment dans une dizaine de lettres et toujours sous l'angle de l'avancement des cousins. Plus tard devenue l'épouse du roi, elle se montrera dans ses lettres désireuse de convertir tous ses domestiques et ses gens de Maintenon. On peut dire que c'est bien le moins vu sa position, parce que quand le roi venait à Maintenon, s'il avait été servi par des serviteurs ou des gens des fermes, etc., protestants, c'était quand même un petit problème. Bon. Elle aura aussi, en septembre 81, conseillé à son frère d'acheter une terre dans le Poitou. Je cite, « Vous ne pourriez mieux faire que d'acheter une terre aux environs de Cognac. Il paraît qu'elle s'y donne par la désertion des Huguenots. » C'est son côté réaliste. Le frère, qui est un panier percé, n'en fera d'ailleurs rien. Elle n'insistera nullement. Elle ne tirera aucun profit personnel ni à travers sa famille de la répression contre les protestants. Elle n'est donc pas l'inspiratrice. Elle n'est pas non plus approbatrice de cette mesure. On ne trouve sous sa plume aucune ligne d'éloge sur la révocation. Et ça, c'est rare. Parce que sous la plume des gens du temps, y compris des esprits très libres, je ne parle pas des Bourdaloue, des Bossuet et autres, mais même sous la plume des esprits libres du temps, mais c'est un concert d'éloges pour la révocation, concert d'éloges pour les dragonnades également. S'il y avait eu un référendum, les Français votaient à 98% pour la révocation, c'est une évidence. Alors, prenons le philosophe Fontenelle, par exemple, qui écrit « Enfin, l'hydre du calvinisme a été étouffé par Apollon ». Madame de Sévigné, à qui on ne fait aucun grief pourtant de toutes ces lettres. On va chercher des lettres inexistantes de Madame de Maintenon, mais Madame de Sévigné écrit « Jusque-là, les dragons ont été de très bons missionnaires ». Elle écrit aussi « Rien n'est si beau que ce que contient l'édit de révocation, et jamais aucun roi n'a fait ni ne fera rien de si mémorable ». La Bruyère écrit « Il faut louer un roi qui a banni un culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté ». Bussy Rabutin, le libertin, écrit « J'admire la conduite du roi pour ruiner les Huguenots ». Il a sapé cette secte petit à petit et l'édit qu'il vient de donner, soutenu des dragons, a été le coup de grâce. Bien. Eh bien, sous la pluie de Madame Maintenon, il n'y a rien de tel. Il y a quelques lettres factuelles, par exemple une lettre à son confesseur où elle dit « Le roi se réjouit parce qu'à tous les courriers qui arrivent, il apprend des milliers de conversions ». C'est factuel. Elle ne dit pas qu'elle s'en réjouit, elle. En 1687, à propos de son cousin Saint-Hermine, qui est embastillé parce qu'il résiste et qu'il ne veut pas se convertir, elle écrit à un autre cousin, Philippe de Villette, « L'état du chevalier de Saint-Hermine est déplorable, mais il n'a rien de honteux. Faites de votre mieux pour lui, je vous en conjure, mais ne le soutenez pas trop, car cela serait pris ici pour être mauvais catholique. » On le voit, elle est toujours prudente, mais le fanatisme est bien loin de sa pensée et de sa nature. La manière forte n'est pas dans sa manière. Politiquement, elle est arrangée au moment de la révocation dans le clan Colbert et non pas dans le clan Louvois. C'est pour des raisons uniquement d'intérêt personnel, bien sûr, mais c'est là qu'elle est, et plutôt du côté des modérateurs. Et surtout, elle est restée psychologiquement celle qui, en 1672, écrivait à son frère, alors gouverneur en Flandre, « Je vous prie de n'être point inhumain aux huguenots. Il faut attirer les gens par la douceur. Jésus-Christ nous en a donné l'exemple. » La même qui, une fois mariée au roi, osera encore écrire en septembre 1684 à son cousin Villette, protestant, « Je conviens qu'on pousse trop loin l'aversion pour votre religion. » La même, enfin, qui, en 1698, parlera au roi pour adoucir le sort des réunis, c'est-à-dire de ceux qu'on a convertis de force, et confiera dans une lettre au cardinal de Noailles, je cite, « Il ne m'a répondu qu'un mot sur la difficulté qu'il y trouve. » Quand on connaît Louis XIV, il n'y a pas à y revenir, elle n'y reviendra d'ailleurs pas. Finalement, la question du protestantisme, ce n'est pas la question qui la passionne le plus. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle n'est pour rien dans la révocation, mais que la révocation n'est rien dans la vie de Madame de Maintenon. Il n'y a pas 1,5% de ses lettres où il y a une allusion aux huguenots, et encore n'est-ce le plus souvent, comme je l'ai dit, que pour des raisons familiales. À tout prendre, elle parle davantage dans ses lettres du jansénisme ou de la querelle quiétiste, et puis surtout de Saint-Cyr et de l'éducation. Pour ce qui est de la révocation, elle n'a eu manifestement que deux soucis, mettre sa famille à l'abri, de gré ou de force, elle a employé pour, dans un cas, elle a employé la force, et ne pas se compromettre elle-même par ses avis. C'est pourquoi j'ai si peu parlé de la question dans l'allée du roi. La supposée mémorialiste, Madame de Maintenon, ne pouvait sûrement pas imaginer qu'on chargerait sa mémoire de cette affaire. Tout personnage ambigu et qui, énigmatique, et Dieu sait si Madame de Maintenon le fut, est un beau personnage romanesque. Madame de Maintenon, parce qu'elle reste mystérieuse, mal connue, nous excite à imaginer, interpréter, prendre parti, à écrire en somme. « Quoi qu'on fasse, disait Marguerite Yourcenar à propos des mémoires d'Adrien, on reconstruit toujours le monument à sa manière. C'est déjà beaucoup que de n'employer que des pierres authentiques. » Dans l'allée du roi, mémoires imaginaires, écrit à la première personne, j'ai tenté de n'employer que des pierres authentiques. La plus authentique, c'est celle qu'on ne voit pas. La pierre manquante, authentique dans son absence, la révocation de l'édit de Nantes.
Vous venez d'entendre la communication de la romancière Françoise Chandernagor qui s'exprimait à la Fondation Saint-Gerre-Polignac le jeudi 16 novembre 2006 sur le sujet « Pour en finir avec une légende, Madame de Maintenon et la révocation de l'édit de Nantes ».